Le son des bulles sur RCN.
Eh bien, amis du jour, chers auditeurs, bien le bonjour. Et une nouvelle fois, nous sommes très heureux de vous accueillir pour une heure d'émission du son des bulles, émission 100% dédiée à la bande dessinée, ses auteurs, son actualité, et ce sur RCN 90.7, un jeudi par mois à 18h. Et en plus en replay sur rcnradio.org ou Facebook et YouTube. N'hésitez pas à les écouter, les partager, nous envoyer vos remarques ou appréciations, nous les lirons avec plaisir. J'espère que ce sera bien agréable.
Tout à fait.
Dans vos propos. Pour animer cette émission, alors des animateurs fidèles aujourd'hui, on va les citer. Charles, qui ne vit que pour la BD.
Eh ben oui.
Avec quelques trahisons pour le vélo ou réciproquement, on va
Évidemment,
savoir.
Évidemment, bien le bonjour.
Tu trahis qui pour l'autre?
Écoute, je dessine en pédalant.
Ah, ça ne m'étonne pas de toi.
Ouais.
Ensuite, David, l'inconditionnel du monde des comics. Je ne sais pas s'il aime autre chose. Dis-nous voir, David, des trahisons là-dedans.
Oh, les comics, après, c'est des variations sur les super-héros entre eux, quoi, mais c'est des trahisons successives. Ouais. Mais je les aime tous quand même.
Non, bah c'est bien ça. Et ensuite, Joris, alors, j'ai marqué petit nouveau, mais il est très grand. Jeune nouveau, je sais pas s'il est très jeune non plus. Hein. C'est un pas peu, un perdreau de l'année dans l'émission, mais pas que dans la radio. Il travaille à la radio, qui lui est adepte de manga. Et passion qu'il partagera avec nous et avec vous. Alors, est-ce que Joris, t'es content d'être là?
Oui, un très grand plaisir, merci.
Ah oui, t'as postulé en plus, c'est fabuleux. Des infidélités à d'autres émissions?
Oui, je reste quand même. J'essaye d'éviter d'être un traître.
Ah, ben voilà, on va bien voir à la longue. En tout cas, bienvenue à toi. Alors, merci. Vous aurez noté, chers auditeurs, des absents, les infidèles du jour, les traîtres à la cause.
Oh, les traîtres, les traîtres.
Ah ouais. Les traîtres, hein, les gueuses, à savoir Francine. Vas-y.
Vas-y, Francine. Oui, Francine.
Partie pour un autre univers de bande dessinée, les Utopiales. Et Olivier, victime d'un truc qui s'appelle travail, mais que vous entendrez quand même grâce à la technologie maîtrisée de notre fidèle ingénieur du son, Jean-Luc. Merci à toi par avance, Jean-Luc.
Merci, Jean-Luc.
Et bonjour aux deux absents.
Voilà.
Et pour vous servir, passez la parole, votre animatrice du jour, Françoise, fidèle surtout à moi-même. Voilà, j'ai essayé du moins. Voilà. Et on a aujourd'hui la chance, parce que c'est toujours une chance d'avoir un invité en direct et qui va se présenter. Il est là à ma droite.
Jarvin. Qui es-tu, Jarvin?
C'est ça,
Jarvin.
Bonjour,
merci, bonjour, d'être, bonjour. Merci d'être avec nous, hein, donc, aujourd'hui, Jarvin. On va te poser donc, un ensemble de petites questions. Tu travailles donc, chez Macaca, en fait, depuis donc, 2018, hein,
ouais, c'est ça
d'après. Et le principe de tes bouquins, de tes livres, c'est des bandes dessinées dont vous êtes le héros. Alors,
ouais,
est-ce que
ça.
Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que ce principe de la BD dont tu es le héros?
Alors effectivement, donc je suis Jarvin, je suis auteur, scénariste de BD, concepteur de jeux par ailleurs. Je travaille essentiellement pour Macaca aujourd'hui. Effectivement, je travaille sur des scénarios de bandes dessinées dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que ce sont des bandes dessinées qui, contrairement à des bandes dessinées classiques, traditionnelles, ont l'avantage de permettre au lecteur d'être acteur vraiment du scénario et de l'histoire.
D'accord.
Et donc de lui permettre de voir différentes versions de l'histoire, de découvrir l'histoire au travers de différents prismes ou versions, et d'avoir une sensibilité complètement différente dans la lecture de la bande dessinée que s'il avait simplement été passif dans cette histoire.
D'accord. Parce qu'on a tous connu, en fait, à un moment donné, tu sais, ces fameux livres dont vous êtes le héros, mais qui n'étaient pas des bandes dessinées, qui étaient des récits, des romans dans lesquels tu prenais la charge.
Ouais.
Mais là, donc, il y a la dimension dessinée supplémentaire. Donc,
c'est ça.
Ça va, c'est à quel public, vers quel âge à peu près on peut commencer?
C'est très variable. Macaca existe depuis 2012, je crois, en tant que maison d'édition. Et c'est d'abord consacré à la bande dessinée de manière classique et traditionnelle. Alors, je ne fais pas la pub de Macaca, mais j'en profite pour glisser quelques mots. Mais très vite, effectivement, la maison d'édition s'est dit qu'il y avait une niche. L'auteur principal et le fondateur de Macaca, Chucky, s'est dit qu'il y avait un intérêt certainement pour ces bandes dessinées. Et je pense, en tout cas je parle en son nom sans être complètement sûr de ce que je vais annoncer, mais je pense que pour lui il manquait quelque chose effectivement dans ces fameux livres dont vous êtes le héros.
Oui.
chose que j'ai constaté moi-même à l'époque, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait l'aspect roman, il y avait l'aspect ouvert,
prise de décision,
choix qui était bien présent, mais je trouvais que autant les images étaient superbes dans ces ouvrages, les dessinateurs qui étaient auxquels on faisait appel étaient géniaux, mais en même temps je trouve que c'était très sous-exploité. Ça permettait effectivement d'illustrer des choses, mais on n'en faisait pas grand-chose d'autre au final.
C'était très descriptif,
c'est ça,
une description
purement descriptif.
Voilà, et pour le coup,
tout à fait. Et pour le coup, je trouve que ça avait un effet presque contraire, c'est-à-dire que autant le roman, je trouve que sans image, c'est super intéressant parce que ça permet de faire travailler l'imagination. Autant là, l'imagination, elle était un peu bridée parce que justement, à l'inverse, on imposait des images.
Oui,
donc je trouve que ça avait un effet assez contraire.
D'accord.
Moi, ce qui m'intéressait vraiment dans ce concept développé par Makaka, c'était l'idée de proposer autre chose et de faire travailler les images pour en faire quelque chose de concret. Mmh. Donc par exemple ici sur le titre Sherlock Holmes, donc là c'est le tome 9 qui est sorti, un autre scénariste a travaillé sur les 6 premiers, moi j'ai travaillé sur les 3 derniers.
D'accord.
Sur ces BD d'enquête, on incarne Sherlock Holmes ou Watson et on va vraiment pouvoir aller interroger des gens,
d'accord,
remarquer des détails,
dans
des informations dans l'image, d'accord, vraiment aller chercher le petit détail qui va faire qu'à un moment donné, on va se dire, ah ouais, en fait, j'avais pas vu, tiens, il y a un bouton, d'accord, qui traîne, il y a une plume, il y a un machin, il y a un truc. Ah ouais, en fait, c'est ça la solution de l'énigme.
D'accord.
Et là, du coup, on peut exploiter l'image vraiment à fond, quoi.
Bien sûr, oui. C'est un peu ce principe des 7 erreurs, des fois, qu'on a fait à l'époque.
Exactement. Exactement. Okay,
d'accord.
Pour répondre à ta question, puisque c'était pas celle-là.
Non, vas-y, tu vas prendre l'ordre que tu veux, il y a
c'était à quel public. En 2020, Makaka s'est dit que... Alors, leur catalogue était déjà bien fourni, puisqu'il y avait déjà une quarantaine ou une cinquantaine de tomes différents pour les ados, adultes, d'une manière générale. Mais il n'y avait pas de... Il n'y avait rien au catalogue qui était spécifiquement pour les enfants.
D'accord.
Donc, Makaka m'a sollicité. J'ai un grand honneur en la matière. On m'a sollicité pour essayer de travailler justement sur des BD dont vous êtes le héros, mais pour les petits, pour une tranche 3 à 7 ans. Donc...
Pas trop lire.
3 ans, ils ne savent pas lire. Ouais, ça, ouais. 7 ans, ils commencent à lire, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Les énigmes qu'on peut leur proposer ou les jeux qu'on peut leur proposer ne sont pas non plus super faciles. Le nombre de cases n'était pas forcément aussi évident. Ouais. Et puis même le simple fait de se déplacer de case en case, puisque là, dans les BD dont vous êtes le héros, on se déplace de case en case, donc des cases numérotées. Ce simple élément, c'était pas facile pour eux. Donc il a fallu travailler à la fois sur la mécanique du jeu qui devait évoluer pour permettre à des petits de travailler en ce sens-là. Et du coup, on a développé vraiment un système.
D'accord.
J'ai développé un système très spécifique avec des onglets de couleurs qui permettent aux enfants de se déplacer directement de case en case. Mais cette fois-ci, chaque case a un symbole
couleur.
Et une couleur qui permet, d'accord, de l'identifier. Alors, on a laissé les petits numéros c'est pour super. Les parents, parce que le soir, c'est plus facile de voir les numéros que les couleurs. Ouais. Mais les enfants, eux, ça marche très bien.
D'accord. Donc, c'est vraiment l'idée d'accompagner la lecture avec l'enfant, de raconter. C'est plus le livre d'histoire qu'on raconte le soir avant de se coucher.
C'est ça.
C'est l'idée de se raconter un peu une histoire à soi autour d'un livre.
Et puis, c'est une histoire différente tous les soirs.
Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, c'était mon expérience de papa. C'est vrai que souvent, on se rend compte que les enfants, surtout les petits, on peut leur raconter la même histoire tous les soirs. Eux, ça les dérange
pas.
Au contraire, ils sont même très demandeurs. Mais alors bon, les parents, au bout de la troisième ou quatrième fois, ont bien avoué que on aimerait bien changer un peu, quoi.
C'est ça.
Et là, c'était l'occasion de pouvoir se dire, tiens, travaillons là comme une histoire du soir alternative, avec cette possibilité d'avoir plusieurs histoires en une seule, plusieurs chemins en un seul. Et du coup, on les a travaillés sous cette version-là.
Est-ce qu'on se sent, c'est bon, peut-être tes enfants, tes nièces, tes neveux, etc., t'aident ou te donnent des inspirations sur les histoires à raconter aux enfants, parce que finalement, c'est peut-être eux les premiers à chercher des histoires typiques ou particulières.
Pas forcément, mais ils m'ont inspiré pour deux personnages, en tout cas. La première BD dont vous êtes le héros pour enfants que j'ai écrite, c'est un petit chaton qui s'appelle Mo. Et Mo, en fait, c'est le prénom de mon fils Tom, que j'ai mis à l'envers.
Petit Thomas.
Et la deuxième deuxième BD que j'ai écrite pour les enfants. C'est le personnage principal est une petite princesse qui s'appelle Kali.
D'accord.
Et c'est le prénom de ma fille, voilà, Kali.
Très bien.
Donc,
très bien.
Donc ils m'ont inspiré au moins sur cet aspect-là.
Super, c'est bien. Des très beaux hommages. Donc là, on voit bien que l'application de l'enfant dans la BD, etc. Donc, tu as déjà à ton actif pas mal d'ouvrages. Donc, je vois comme ça, vraiment, tu en as ramené quelques-uns.
Ouais.
Donc, Kali et Casco, Sherlock Holmes, hein, à travers six ouvrages. Tu as Le Petit Alchimiste aussi. Hein, tu as également Space Unit, Carlos Labatros et Lilanté.
Alors, ça, c'est pas moi.
C'est pas toi, pardon, non. Je me suis trompé. Excuse-moi. Zone 25, c'est un univers post-apocalyptique.
Oui, c'est ça.
C'est ça, voilà.
Ouais, exactement.
Ok, d'accord. Donc, déjà une belle panoplie déjà d'ouvrages à ton actif.
Mais est-ce que quand tu t'empares d'un personnage comme Sherlock Holmes, il y a un cahier des charges pour qu'on est obligé d'obéir à des règles ou est-ce que c'est champ libre?
Plus ou moins. Alors,
mais c'est dans le domaine public, non?
Oui, alors voilà, le personnage d'accord. Sherlock Holmes en lui-même, il est dans le domaine public, donc c'est vrai qu'on est assez libre sur ce qu'on peut faire et on le voit au travers des séries, des films, des livres, des BD même. On a vu récemment Dans la tête de Sherlock Holmes, qui est, où les auteurs sont vraiment emparés de cette idée et de ce principe. Donc c'est un personnage sur lequel on est quand même assez libre, mais en même temps, en tant qu'auteur, on ne peut pas complètement se sentir totalement libre avec le personnage.
Oui.
Je ne me verrais pas, par exemple, faire un Sherlock Holmes avec des aliens ou...
aller dans des univers un peu
par... Ça paraîtrait très incohérent. On parlait manga tout à l'heure. J'ai vu quelques versions de Sherlock Holmes en manga. J'ai un peu de mal.
D'accord, okay,
c'est, pour moi, c'est deux univers qui ne sont pas tout à fait dans le même état d'esprit et dans la même
religion. Il pourrait y avoir des univers qui peuvent se religier. Sherlock Holmes, c'est l'appel et Lovecraft.
Ouais,
c'est des univers qui peuvent être un petit peu proches quand même parce qu'il y a du surnaturel, il y a de l'enquête, de l'occulte.
Ça
pourrait être éventuellement, mais des choses trop extraordinaires.
C'est ça. D'ailleurs, l'un des tomes de Sherlock Holmes, le premier que j'ai écrit, s'appelle Enquête surnaturelle. Je ne l'ai pas ici, mais c'était justement l'occasion de prendre le personnage et puis de dire... Tiens, mais faisons des enquêtes autour du surnaturel, mais pour essayer de démontrer justement que ce n'est pas surnaturel.
Ok, d'accord. Okay. On va retrouver Moriarty, peut-être, du coup, son ennemi toujours.
Parfois, Moi, j'aime bien introduire des personnages secondaires. Donc, je ne veux pas donner trop d'infos parce qu'ils sont souvent cachés, dissimulés. Mmh. Mais j'aime bien rajouter des personnages connus de la même époque que Sherlock Holmes dans les scénarios.
D'accord. Alors, ça prend combien de temps, à peu près, pour réaliser un album complet? Alors, le choix bien sûr du dessinateur, tu travailles beaucoup de dessinateurs différents, j'imagine.
Quasi à chaque fois, ce sont des illustrateurs différents,
d'accord.
Sauf quand on est sur des séries, hein, puisque les séries Sherlock Holmes, par exemple, c'est toujours le même illustrateur. Les séries pour enfants, on garde le même illustrateur à chaque fois pour une même série, d'une manière générale.
D'accord.
Mais effectivement, j'ai un panel d'illustrateurs assez variés autour de moi.
C'est pas trop compliqué de travailler avec tous ces dessinateurs différents quand même.
D'autant qu'on se rencontre très peu. Hein, La plupart d'entre eux, je les ai même jamais rencontrés physiquement.
On n'en a aucun sur Nancy, on pourrait peut-être l'inviter.
Aucun
mystère sur Nancy.
Le plus proche est belge. Donc.
Oui. Parce que toi, t'es un auteur local, si je puis dire. Voilà, t'habites dans la région.
Ouais, exactement.
Voilà, c'est ça. Et Macaca, c'est où?
C'est en Ardèche.
Ah, c'est en Ardèche. Ah oui, d'accord.
C'est situé en Ardèche.
Un grand écart. Et alors, la question, Macaca, c'est un personnage historique?
Du tout,
non. Ça vient d'où ce nom improbable? Aucune idée.
Pour le coup, j'en ai aucune idée. Jamais posé la question.
J'avais pas le droit de la poser, mais j'ai je fais ce que je veux.
Mais tu as tout à fait raison.
Est-ce que tu veux encore peut-être dire d'autres choses sur un projet à venir?
Plein de projets. Là j'écris. Alors j'ai un gros avantage, c'est d'être un auteur assez prolifique et rapide dans l'écriture. Donc j'écris quand même beaucoup de BD dont vous êtes le héros. Là, par an, j'en écris à peu près 3 ou 4.
D'accord. Voilà, donc c'est le dessinateur qui met plus de temps à les faire.
L'illustrateur met beaucoup de temps, lui, de son côté. Mais moi, de mon côté, en tout cas, c'est très rapide. Pour donner un ordre d'idée, un album comme celui ici, pour les petits, ça me prend à peu près un mois d'écriture, grand maximum. Et pour un tome pour ado-adulte, il me faut à peu près 2 mois d'écriture.
D'accord.
Ça reste quand même assez gérable et assez facile d'empiler des scénarios les uns derrière les autres. Et puis à côté de ça, je suis en train d'essayer de développer aussi ma carrière à la fois pour faire de la BD classique traditionnelle.
D'accord,
j'aimerais beaucoup faire de la BD classique aussi.
Classique sur un thème spécifique ou...
Non, j'aime tout d'une manière générale. Donc,
mais comment ça se passe pour monter des scénarios comme ça? Tu fais des interactions d'abord sur un plan mathématique ou l'histoire?
Alors, je pars d'abord d'une histoire. Souvent, je pars d'une idée générale, d'un pitch, assez générale, voire parfois même simplement d'une envie de traiter un univers en particulier. Tiens, j'ai envie de parler voilà, pour Zone 25 par exemple, c'était le cas, j'avais envie de parler du post-apocalyptique.
D'accord.
Je ne savais pas encore de quoi ça allait parler, mais j'avais envie de faire du post-apocalyptique et puis de voir un personnage se déplacer dans un univers complètement dévasté, etc. Chercher des ressources. Voilà, j'avais vraiment envie de ça. Et à partir de là, j'ai greffé mon histoire.
D'accord, okay. Après, tu fais l'arborescence,
ouais, c'est ça,
etc.
C'est ça.
Mais il y a une vraie fonctionnalité. Enfin, tu sais comment faire.
Oui,
pour la
ouais,
j'imagine,
clairement.
Forcément,
ouais,
mais
il ouais.
Y a des arborescences précises avec des fins pour le personnage. Bah, il meurt,
souvent, en festival, les lecteurs me posent la question. M'affirment même parfois. Me disent ça doit être super difficile à écrire, enfin plus difficile à écrire qu'une BD. Moi j'ai l'impression que c'est plus facile en fait, parce que dans une BD t'es obligé de faire des choix.
Tu les as ces fameux choix.
Bah ouais, moi j'ai pas besoin de choisir, je peux tout mettre dedans.
Et puis ça c'est vraiment beaucoup au scénario des jeux vidéo. J'ai monté des jeux vidéo, tu as les casiers, tu fais tu fais des flèches, tu reviens
avec les retours possibles, etc.
Voilà,
exactement le même principe, je pense.
Mais ouais.
Super. Eh ben écoute,
bel
super, très bel exercice de style.
Et le prochain, tu travailles sur quoi là?
Là, j'en ai plusieurs qui sont écrits. Il y a Chaton et Dragon, tome 4. Qui va sortir
ça, c'est les petits,
l'année prochaine. On part sur un Sherlock Holmes pour les petits. Qui devrait sortir début d'année prochaine, mars je crois, qu'on a appelé le Club Sherlock, et on mise beaucoup dessus, donc on a déjà commencé à travailler sur le 2. Donc c'est dire si on y croit. J'ai un Sherlock Holmes 10 qui est en cours de dessin. J'ai 4 albums je crois qui sont en cours de dessin.
On te retrouvera du coup sur quel festival mettons dans l'année en cours, de l'année prochaine?
Le prochain festival, c'est Festival de Cannes, Festival International du Jeu de Cannes.
Tu mélanges les deux,
oui,
du coup, la bande dessinée et les jeux.
C'est le gros avantage des productions Macaca, c'est qu'on est à mi-chemin entre la bande dessinée et
le jeu.
Et le jeu
société,
et du coup, on est même presque plus présent sur les festivals de jeux que sur les festivals BD.
D'accord. Ok. Plein de bonnes choses et d'avenir.
Plein de bonnes choses.
Mais
alors, en plus, juste, on est quasiment au mois de novembre, c'est bientôt Noël, donc il va y
avoir
des idées
cadeaux.
C'est un hasard de calendrier, donc voilà, on demandera 10% des pages.
D'ailleurs, j'en profite, je serai en dédicace prochainement au jeu du Stan. À Nancy. Donc si certains auditeurs veulent venir dédicacer leur album, c'est l'occasion.
Eh ben oui,
ramenez-les. Ton nom, c'est Jarvin.
Jarvin, c'est ça. Voilà. Vous le trouverez donc bientôt voilà,
au jeu du Stan.
Au jeu du Stan.
Exactement.
Venir faire.
Eh ben, merci tout
merci
ça.
Beaucoup Jarvin.
Merci
beaucoup
pour ton interview. Bah, voilà.
Merci
donc tu interviens quand tu veux dans l'émission.
Pas de souci.
Bon, donc tout ceci étant dit, chers auditeurs, vous avez bien noté que tous mes propos sont émaillés d'allusions à la fidélité ou l'infidélité, parce que le thème du jour, c'est la trahison en BD.
Eh oui.
Alors, qui sont-ils, ces affreux, ces malvus, ces renégats? J'ai trouvé 30 synonymes. Ces scélérats, je ne sais pas si vous en avez, vous, qui nuisent dans l'ombre. J'ai trouvé plein de synonymes. Donc, avez-vous, chers animateurs, vous en avez, vous, des synonymes?
Je verrais bien malotru, moi.
Oui, ça existe
bon, ça.
Aussi, voilà.
Fourbe.
C'est
ça. Fourbe.
Fumier, orgueux, salopie.
Voilà, lâche-toi, Charles, vas-y, effectivement. Alors,
Dieu,
avec des personnages ambigus, quand même, comme la malinche, Judas, ou alors les tondus. Et la question, pourquoi trahissent-ils? Par méchanceté, par opportunité ou par contrainte?
Ils aiment ça.
Ben, ils aiment ça, oui, oui. Bien, on va voir, je crois qu'on a un aéropage. Effectivement, écoutons ce que vont nous en dire les auteurs et les dessinateurs. Et on va commencer maintenant le monde où il y a forcément des traites, les comics, avec le spécial comics, David.
Alors du coup, les spécial comics, alors, moi je vais vous parler d'un personnage qui c'est Loki. Alors qui ne connaît pas Loki là, dans le MCU de Marvel, etc. Donc c'est un personnage éponyme. Hein, ce personnage donc, il est présenté comme un dieu de la malice, mais qui est-il réellement? Qui est Loki? Qui est ce personnage qui l'unit à son frère Thor et au fils d'Odin? Dans la mythologie nordique, parce que c'est là d'où vient le personnage, à son origine, c'est le dieu de la discorde, de la malice, de la tromperie, du mensonge, de l'illusion, de la ruse. Toi aussi, j'en ai aussi des...
Oui, je vois bien.
Il n'est techniquement pas un dieu parce qu'il vit sur Asgard, parce qu'il a été récupéré par Odin dans sa guerre contre le Jotunheim. Alors qu'est-ce que Jotunheim? Ce sont les géants. Hein, les dieux d'Asgard détestent les géants et Odin tue le père de Loki et de Lofée. Loki semble signifier nœud ou enchevêtrement hein, dans son étymologie. Loki est particulièrement intelligent, malin, il adore faire des tours à tous les autres plus ou moins cruels, aux autres dieux, ayant la faculté de changer de sexe. de se transformer en n'importe quel animal, causant des problèmes qui résout ensuite pour apparaître comme un héros. Loki n'est pas vénéré comme un autre dieu, puisqu'il, lui, il est le fils d'un géant. Donc c'est pas un dieu véritablement. Hein, c'est un. Il n'a pas de but en soi, si ce n'est de jouer des tours pendables aux autres dieux et de les tromper. C'est ce qu'il définit, c'est sa raison d'être en somme. C'est toutefois. Excusez-moi, j'ai mes lunettes. Je suis trahi moi-même.
Mon écriture
me trahit. Il est à l'origine des. Oui, alors, important, il est à l'origine souvent des objets qui sont offerts aux dieux, par exemple le marteau de Thor, la lance d'Odin, mais également la fin des dieux, le Ragnarok. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est quand même. Il crée des problèmes, mais finalement, il crée aussi des cadeaux. Thor a son marteau grâce à lui, la lance d'Odin grâce à lui. Loki fait ses premières apparitions dans le comics books Vénus de numéro 6, qui est un peu l'ancêtre de Marvel Comics. On va le retrouver ses origines ensuite redéfinies dans Journey of Mystery 85 en octobre 62 chez Marvel Comics par Stan Lee, Larry Liebers et Jack Kirby. En 2004, c'est la vedette d'une mini-série, alors que j'ai ramené parce que vraiment ça c'était chez Marvel Graphic Novels, qui est un superbe livre illustré donc par Esad Ribic au dessin et scénarisé par Robert Roddy. C'est donc alors c'est hors continuité, c'est un ouvrage qui parle de la légende nordique mais qui est hors de la continuité de l'univers Marvel. Magnifique, superbe. On a un Loki qui est shakespearien littéralement. Loki, comme vous l'avez compris, est le dieu de la tromperie. Il excelle dans les domaines de l'illusion, des faux-semblants. Il recherche l'approbation et la reconnaissance de son père adoptif Odin et de son demi-frère Thor. Loki est solitaire et persuadé qu'il est amené à remplir un grand destin glorieux. Il veut devenir le roi d'Asgard, mais il n'en a pas les reins, si je puis dire. Loki ne rechigne pas à atteindre ses objectifs, à faire de temps en temps alliance avec d'autres super-vilains. Il les manipule pour qu'ils servent ses propres buts et ses propres desseins. Loki possède un savoir approfondi en magie. Il manipule les forces mystiques. Il est un puissant sorcier qui inclut la métamorphose en animal ou en femme, la lévitation, la télépathie, l'hypnose de tes porteurs. L'hypnose, très utile pour un traître, hein, je le rappelle. Les Loki des comics est un personnage important et imprévisible de l'univers Marvel. Frère ennemi de Thor, comme je l'ai dit, fondateur involontaire des fabuleux Avengers, Loki est présenté comme un vilain incompris. Il voudrait faire le bien, sauf si le mal lui rapporte plus. Les scénaristes de chez Marvel ont œuvré en ce sens pour en faire un anti-héros, un vrai dieu de la malice, qui brouille les pistes sur son identité, ses motivations et même son âge, son genre et sa sexualité. Mmh. On a pu observer des Loki femmes, des Loki enfants, des Loki animaux. Donc lui, il n'y a aucun problème avec tout ça. Il se transforme au gré des trahisons possibles. Je conseille de lire donc, le comics de Loki donc, que je vous ai présenté là de 2004, qui nous présente un Loki des légendes, le Loki de Shakespeare. Un peu shakespearien, un récit qui ne fait pas référence à l'univers Marvel comme nous le savons, mais des siècles peut-être avant l'âge des héros, le Loki de la mythologie. Et je conseille également, j'ai pris la petite figurine de Loki, un personnage que j'aime beaucoup, qui orne mon bureau. C'est cette mythologie viking en 3 tomes. Alors nous avons au scénario Neil Gaiman et au dessin Craig Russell, accompagné de d'autres dessinateurs comme Mignola, etc. Là vous avez vraiment la mythologie viking dans sa plus pure édition. Donc il y a déjà 2 tomes de paru actuellement, mais c'est assez excellent. Vraiment on découvre un Loki assez exceptionnel, toujours emprunt de petites trahisons faciles et gentilles vis-à-vis de son frangin hein, qu'il adore. Voilà, un petit peu. Donc Loki est un personnage très populaire des comics. Des apparitions dans les films de MCU en ont fait un personnage préféré de la franchise. Et c'est pas pour rien, effectivement, c'est un personnage fabuleux. Ouais. Mais toujours pareil, comme on disait une fois avec Françoise, c'est un héros un petit peu, enfin, c'est un héros malgré lui. Enfin, il voudrait être un héros, mais il n'en a pas les reins. Enfin, bref, c'est un peu comme Fatalis. Ce personnage un peu compliqué et ambigu.
C'est un peu Cain et Abel quand même.
Il y a ce côté-là. Ouais, c'est vrai.
Vas-y, Fionac. Allez, l'histoire de famille, c'est pas simple. Hein.
C'est jamais simple.
Voilà. Et ben, un autre univers à ce moment-là. Voilà notre jeune nouveau, j'ai dit, je sais plus comment j'ai dit tout à l'heure, bien spécifique pour un domaine avec ses codes, donc c'est Joris. Vas-y,
oui.
Joris.
Et bah oui, aujourd'hui c'est ma première chronique.
C'est ta première chronique.
Ah, oui. Donc,
et peut-être ta dernière. Non,
on verra ça, on verra à la fin de la chronique. Mais du coup, à chaque émission, bien sûr, je vais parler du manga Les Bulles qui nous viennent tout droit du Japon. Catégorisé dans plusieurs genres, vendu des millions d'exemplaires dans le monde, deuxième plus gros marché ici en France, mais on aura le temps bien sûr d'en reparler dans d'autres émissions.
Bien sûr.
Mais on va parler de la trahison. Donc dans la majorité des mangas, il faut savoir, donc dans les plus connus comme Naruto, Berserk, Bleach, la trahison a un peu une marque de fabrique. Donc un personnage qu'on va suivre depuis le début, qui soit important ou proche du protagoniste, et qui en fait d'un coup va planter le fameux couteau
il
dans le dos.
Il se révèle.
Voilà. Oui. Donc en fait, c'est plutôt un twist, une surprise. Dans le manga, c'est comme ça qu'est souvent présentée la trahison. Et donc, je vais vous parler d'un manga assez sombre, violent, aux multiples trahisons. Donc, je vais vous parler d'un manga qui est plutôt connu. Donc, c'est pas mal pour ma première chronique de parler d'un manga comme ça. Donc, c'est L'Attaque des Titans, donc par le mangaka. Mangaka qui, en japonais, c'est le dessinateur. Hein. Donc, on n'appelle pas des dessinateurs de BD ou des auteurs, on les appelle tout simplement mangaka. Donc, c'est Hajime Isayama. Donc, c'est L'Attaque des Titans, 34 volumes. C'est plutôt pas mal.
Sorti
en France chez Pika Édition entre 2013 et 2021.
D'accord.
Donc vendu à plus de 140 millions d'exemplaires. Ah oui. Ça fait de ce manga le 11e manga le plus vendu de tous les temps. Donc c'est super. Plutôt pas mal. Ouais. Pas dans le top 10, mais 11e.
Bon, c'est déjà pas mal.
C'est plutôt sympa. Ouais. Donc l'histoire, pour faire assez simple et court, parce que bon, 34 volumes, l'histoire est assez longue, mais je vais essayer de résumer ça le mieux possible. Ça se déroule dans un monde où les humains sont contraints de vivre derrière des immenses murs de 50 mètres de haut pour se protéger des titans, des créatures géantes qui mangent les hommes.
Ah.
C'est dommage. Notre protagoniste, qui s'appelle Eren Yeager, après avoir subi une attaque de titans qui ont créé une brèche dans le mur, justement, voit de ses propres yeux sa mère se faire dévorer par un titan. Donc il part alors dans une quête de vengeance tout le long du manga, car comme dans tous les bons shonen qui sont un type de manga où le héros a un objectif, d'accord, par exemple One Piece, être le roi des pirates pour Luffy, Naruto devenir le chef de son village, d'accord, bah là, son objectif à Eren va être plutôt clair, exterminer tous les titans. Voilà. Donc on reste un peu très ambitieux.
Il y a peu cas.
Et cette quête va lui permettre aussi au lecteur, au fil du manga, d'éclaircir certains mystères comme l'origine des titans ou même la découverte du monde par-delà les murs. Mais un point très important du manga et qu'on découvre dès le tome 1, c'est que certains titans ont des capacités spéciales. Mmh. Il y a par exemple le titan colossal qui lui mesure 60 mètres de haut, ce qui est plutôt
pas mal.
Le titan cuirassé qui lui a simplement une cuirasse, donc une sorte d'armure. Et donc, faut savoir que ces deux titans sont par ailleurs ceux qui ont détruit le mur lors de l'attaque qui a tué la mère de notre protagoniste.
D'accord.
Place à la trahison.
Mon Dieu, ça y est, elle arrive. Elle est là.
Attention, spoiler, hein, pour ceux qui veulent lire. Voilà.
On n'écoute pas.
Oui. Notre protagoniste.
Donc vous pouvez arrêter à 26, attention.
Notre protagoniste, Eren, a donc rejoint au fil du manga le bataillon d'exploration. Donc c'est ce que c'est dans l'univers, c'est l'armée. L'armée qui combat les titans. Donc c'est un escadron parfait pour l'objectif d'Eren qui, je le rappelle, d'exterminer les titans. Et donc, comme dans toutes les armées et dans toute histoire, Eren va créer des liens avec ses compagnons, combattre et vivre des événements qui vont forcément renforcer tous ces liens. Et c'est lors du tome 10 que la trahison s'opère, juste à la fin. En plus, on nous laisse sur un cliffhanger magnifique. Une trahison qui va marquer le monde du manga et tous les lecteurs de l'attaque des titans, puisque deux des compagnons d'Eren, qui s'appellent Reiner et Bertolt, ils vont avouer à Eren que, en fait, ce sont eux les titans, et colossal et cuirassé.
C'est-à-dire qu'ils ont une taille d'humain au départ.
C'est ça, donc ce sont des humains, ils sont juste là, on peut les voir, ils sont totalement normaux, mais en fait, ils ont la capacité de pouvoir se transformer en titan, et en plus, pas n'importe quel titan, puisque le titan colossal et le titan cuirassé. Donc il révèle ça à Eren, mais sur le coup, il les croit pas, il pense qu'il divague, que c'est la fatigue des combats qui les atteint. Mais Reiner insiste, affirmant qu'il est responsable de l'attaque qui a tué la mère d'Eren. Vient alors la transformation de nos deux grands méchants de retraite qui se transforment et qui, du coup, bah là, tout est révélé. On sait enfin qui ils sont.
Et Carnage, ils sont à l'intérieur de la ville cette fois-ci.
Ah, bah là, ils sont juste sur le dessus du mur. Oh, donc, c'est n'importe quoi. Donc, depuis le début, Reiner et Bertolt, des compagnons d'infortune d'Eren, deux personnages auxquels on s'attache, sont en fait deux des plus dangereux titans qui existent et qui sont quand même responsables de terribles atrocités. Mmh. Eren criera alors de douleur avec une phrase qui conclut le tome 10 d'une façon parfaite. Reiner et Bertolt.
Tu voulais que je rende le bouquin?
Non, bande de sales traîtres.
Donc, j'aurais pas dit mieux.
Voilà. Donc la phrase résume parfaitement. Mais tous nos protagonistes sont donc sous le choc et l'ambiance pesante du manga qui est installée depuis le début est renforcée avec cette trahison, puisque tous les personnages vont maintenant douter de l'identité de chacun. Ah oui. L'auteur met alors le lecteur dans une posture plutôt pas mal. Le lecteur va se questionner sur qui est vraiment qui.
Mon voisin, est-ce que c'est pas...
Voilà, est-ce que lui est un titan? Est-ce que lui est un titan? Tout le long du manga, on va se demander quand va arriver la prochaine trahison. Et il y en aura. Une ambiance oppressante, des doutes, toutes ces interrogations nous donnent envie de continuer dans l'histoire du manga et de ses mystères. Cette trahison qui a marqué de façon considérable les personnages et de façon directe le lecteur et le monde du manga.
Bravo. Bravo. Alors comment est-ce qu'ils font pour tuer ces géants? Parce que du coup, si c'est un petit bonhomme, comment tu fais pour monter sur les épaules d'un géant? C'est ça
alors,
le truc.
Ils ont des cordes, des grappins. Ils ont un équipement donc, qu'ils ont sur le côté qui s'appelle un équipement tridimensionnel. Ah. Donc en fait, qui leur permet avec des grappins de s'accrocher au mur ou sur les bâtiments alentour pour pouvoir un peu
naviguer, voler un petit peu autour
c'est
des
ça, et
géants.
Se mettre à la hauteur d'un titan. Puisqu'un titan
alors, comment est-ce qu'on les tue comment tu nous avais dit une fois?
Alors le titan, pour leur seul point faible, c'est dans la nuque.
Ah oui, c'est
donc
très
en fait,
haut.
Il faut
quoi.
Trancher la nuque.
Oui, c'est très très haut. Si on c'est dommage que ce n'est pas le talon d'Achille. Hein, ça être le talon sur
bah là, c'est le talon d'Achille, mais dans le cou.
Plus accessible.
Ça fait mal. Voilà.
Et donc, très compliqué quand même de tuer un titan.
Bon. Oui, en tout cas,
merci
ça a l'air riche
avec plaisir.
Oui, tous des bandes de traîtres, c'est plus facile que tout Koukou et Mifimi.
Sale bande de traîtres, c'est parfait.
Ah oui, oui, parfait. C'est vraiment bien. Okay. Bon, ben, ça crée une idée. Il y en a 34 tomes.
34.
34 trahisons ou plus?
Non, pas autant quand même. Le manga ne se résume pas aux trahisons.
Trahisons sur trahisons.
Eh ben, en attendant, bon, ben, après les comics et les mangas, pour se remettre de toute cette violence, on a une petite voix douce là que je vous propose avec une pause musicale avec Solane, une chanteuse que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, Petit Corps.
Ça résonne et ça sonne faux, une distorsion dans mes os, silencieusement qui se glisse, s'éternise dans ma matrice. Petit corps sera grand demain, pour l'instant, pour l'instant, je me dédouane. Mes os dans les mains des autres pour qu'ils les aiment à ma place. Une envie qui me dépasse à chaque fois.
Le son des bulles sur RCN.
Un petit moment de douceur, sauf si on écoute les paroles. Voilà, mais on n'écoutait pas les paroles. Alors, un autre trait qui a été choisi avec la rigueur habituelle d'Olivier. Donc, Olivier, on a bien dit qu'il n'était pas là, l'espèce de sale bête. Hein.
Ouais,
voilà, mais qui a confié la mission à Jean-Luc. Jean-Luc, si tu veux bien, s'il te plaît.
Alors là, les amis, croyez-moi, cet album, vous allez l'adorer. Je dirais même plus, vous allez en avoir pour tout votre argent, voire même tout votre or. Pourquoi? Alors, en fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, l'album lui-même, regardez-moi cet objet. Avec cette couverture d'un portrait en clair obscur, digne d'un tableau de Velázquez, Ce format plus grand que la moyenne, ce lettrage en or qui brille quand vous inclinez l'album, oh, c'est tout simplement magnifique. Dans une librairie, on pourrait presque croire que l'on a affaire à un livre sur les grands maîtres de la peinture espagnole du XVIIe siècle. Et quand vous ouvrez l'album, les premières pages de Garde avec leur composition, leur écriture et les enluminures en filigrane, ça vous tient dans la même impression de posséder un livre sur les beaux-arts. La deuxième raison d'adorer ce livre, c'est de parler des auteurs. Avec en tête d'affiche les signatures d'Alain Erol au scénario et de Juanro Garnido au dessin, c'est comme si on avait Gaël Faye et Stromae dans le même concert, ça promet. Alors Alain Erol, lui, c'est l'un des plus grands raconteurs d'histoire de notre époque. À son actif, on a les séries Garulfo, De Cap et De Croc, Les Chimères de Vénus et l'actuel L'Ombre des Lumières dont le deuxième tome vient de paraître. Lui, ce qu'il aime, c'est le beau verbe, les belles tournures et le phrasé élégant. Juanro Garnido, c'est le talentueux dessinateur de la célébrissime série Black Sad, scénarisée par Juan Díaz-Canales. Son trait illumine les expressions, sublime les décors et explose l'action. Ce n'est pas un hasard si le chat détective a eu autant de succès. Alors avec ces deux pointures de la bande dessinée aux commandes, c'est sûr, on se prépare à lire une histoire magnifique. Ouais, mais attention, rappelons-nous, le PSG, même avec Neymar, Messi et Mbappé, ben, il n'a jamais été capable de gagner la Ligue des Champions. Alors passons à la troisième raison, qui est la plus importante et qui va vous faire adorer cet album. C'est l'histoire des Indes fourbes. Alors, autant l'album est d'une fluidité de lecture, même si vous le constaterez, les changements de lieu et d'époque sont nombreux, autant vous la raconter sans dévoiler ses secrets, c'est un exercice un peu difficile. Bon, essayons quand même. Comme indiqué sur la couverture, Les Indes fourbes, c'est la suite imaginée par Alain Erol du seul roman de Francisco de Quevedo, El Buscón, la vie de l'aventurier Don Pablo de Ségovie. Ce roman de Francisco de Quevedo raconte la première partie de la vie de Pablos, personnage issu des bas quartiers de la société espagnole du XVIIe siècle. Cet honnête vagabond, mendiant et voleur, n'a qu'un rêve dans la vie, devenir gentilhomme. Mais son voyage et ses rencontres dans la péninsule ibérique n'ayant en aucune manière fait avancer son projet, il se décide, à la fin du roman, de tenter sa chance dans les Indes. Les Indes, c'est la terre découverte par un certain Christophe Colomb en 1492. Là, je ne vous apprends rien. Hélas, Francisco de Quevedo n'a pas écrit la suite des aventures de Pablos, alors, génialement, Alain Erol a pris la plume et a imaginé ce que pourrait être la vie de l'apprenti gentilhomme dans une société toute neuve et en pleine construction. Et c'est donc là que commence l'histoire des Indes fourbes. Alors, après une traversée tumultueuse de l'Atlantique, tant par les vents marins que par la rudesse de l'équipage, Pablo arrive enfin aux Indes. Ce pays qui fait rêver par son immensité, ce pays qui est synonyme de réussite sociale et de richesse, et surtout, ce pays qui cache en son sein la mythique et mystérieuse cité d'or, l'Eldorado. Et pour Pablo, son avenir se joue ici, c'est certain. Mais alors, comment débuter une nouvelle vie quand on ne connaît ni personne et qu'on n'a rien dans les poches? Mais Pablo est audacieux. Pablo a de l'ingéniosité. Et par-dessus tout, Pablo sait comment exploiter les forces et les faiblesses des hommes. Alors, est-ce que Pablo finira par réaliser son rêve de devenir riche et respecté, à votre avis? Bon, ben ça, vous le saurez en lisant l'album. Je vais quand même pas trahir le suspense. Mais vous l'aurez compris, rien ne se passera crème dans la vie de Pablo. Alain Erol a pris soin, et sans doute un malin plaisir, à tirer les fils de son histoire dans tous les sens, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. On verra donc Pablos, adulte, dans les geôles du seigneur Alguazil, Pablos, enfant, dans les rues de Ségovie, Pablos, jeune homme, dans la jungle amazonienne, etc., etc. Les fils narratifs vont nous promener dans une chronologie non linéaire pour à chaque fois nous surprendre dans le déroulement de l'histoire. Et les twists sont nombreux et ne font qu'amplifier les plaisirs de la lecture. C'est vraiment jouissif, je vous l'assure. D'autant que Juanro Garnido est sans doute le dessinateur le plus adapté à mettre en image cette histoire. Chaque époque a sa propre atmosphère graphique et colorée, les caractères des personnages sont d'une lisibilité parfaite, et les expressions et les mimiques sont d'une drôlerie sans égale. Et les décors sont magnifiques. Ouais, mais alors, la trahison dans tout ça? Ben alors, vous le verrez, la fourberie est présente tout au long de l'album. Pablos, bon gré mal gré, a atteint les sommets de l'arnaque. Tout le monde y passe. Et un bon conseil, chères lectrices et chers lecteurs, faites bien attention de ne pas vous faire berner non plus. À bon entendeur, salut !
Eh bien, effectivement, Olivier, merci. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Ça, c'est un beau. Moi, je lui ai prêté l'album, hein, du coup, parce qu'il est venu le chercher chez moi. Le traître.
Le traître. Il n'a pas voulu
l'acheter. C'est vrai que Les Infos, bah, ça m'a laissé un souvenir impérissable. Enfin, c'était, dans les 10 dernières années, c'est un album qui m'a marqué, moi. Vraiment, c'est un pavé, c'est un one-shot. Il est super. Vraiment, je le conseille. Comme dit Olivier, c'est un très beau bouquin. Très, très chouette.
Et puis, Erol, d'une manière générale, c'est quand même un gage de qualité.
Oui, c'est ça. Pas trop tromper.
Il faudra explorer. Alors, pour moi, j'en reviens aux traîtres, hein, qui m'ont toujours fasciné par leur ambiguïté et leur destin tragique. Comme l'étendue, dont on n'a pas parlé ici, la Malinche, ou alors mon chouchou, Judas. Donc, Judas, le traître méchant par excellence, hein, tout le monde le connaît, celui qui a trahi, dont on dit malheur à celui par qui le Fils de l'homme est trahi. Et par bonheur, c'est un enchaînement étrange, c'est sûr, vient de sortir une BD magnifique la semaine dernière,
ah oui,
qui s'appelle Judas, aux éditions 404 Graphiques, c'est une maison indépendante américaine, me semble-t-il. Scénario Jeff Loveness, dessinateur Jacques Rebelka. Alors, est-ce que c'est une union sacrée ou un duo maudit? Je ne sais pas. Ou alors pire, est-ce que c'est blasphématoire? En attendant, ils s'en défendent. Parce que les deux ont proposé, dans cette histoire, un autre regard sur Judas Iscariote, hein, je rappelle, un des 12 apôtres. Tellement traître, d'ailleurs, qu'on lui donne même plus... Son prénom n'est plus utilisé. Hein, on fait allusion à Adolphe, c'est pareil, c'est les deux maudits. Mais ils ont créé une fiction où l'on envisage Judas comme un saint déchu, qui s'est sacrifié pour l'avènement du Christ, pour qu'il se révèle et offre sa rédemption à l'humanité. Et ce, à la demande du Christ lui-même, qui lui a imposé ce destin. Le Christ dit, enfin Jésus, c'est pas le Christ encore, disait « C'était écrit depuis le début, c'était le seul moyen, dit-il, comme pour une excuse. » Cette thèse, d'ailleurs, est d'ailleurs évoquée dans Historia, quand même, une revue qui traite d'histoire... de façon plutôt sérieuse, et dans certaines analyses religieuses, comme quoi Judas serait l'élu plus que les autres apôtres, parce que nul n'a de plus grand amour, il n'existe pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour un ami. Alors pour le Christ, je ne vous dis pas la taille de l'amour. Alors c'est le chemin de Judas dans cette BD qui a été appelé, qui a été sollicité, c'est Jésus qui est venu le chercher pour le suivre, et pourtant Jésus savait ce destin. Et donc on a le chemin de Judas aux enfers, peuplé de réflexions sur le pardon, pourquoi lui, sur la trahison effectivement, parce que la trahison pour lui, il a fait ce que le Christ lui a demandé, et ensuite il est maudit, il est puni. Et la question tout au long de cet ouvrage, parce que c'est un ouvrage, c'est qui a trahi qui finalement. Donc c'est un peu moins... mathématiques que ce qu'on traduit habituellement. L'ouvrage est scénarisé par deux fous furieux. Alors Jeff Loveness, américain, scénariste de films aussi chez Marvel, acteur, auteur de BD. Alors lui, il fait ses scénarios en réalisant tout ce à quoi il a rêvé. Surtout les bas de page, il dit c'est facile, je rêve d'un truc, je le mets en page et hop, on y va. Bon, pourquoi pas, c'est une façon de voir. Et Jacques Rebelka, dessinateur de génie aussi, qui a fait Les Derniers Jours de Howard Philip Lovecraft.
Ah, oui.
Les planches sont magnifiques. D'accord. La composition des planches, elle est fabuleuse, c'est majestueux. Ça fourmille de détails, de personnages fantastiques. Alors moi qui suis sensible aux couleurs, chaque case a une couleur définie. C'est bleu, c'est ocre, c'est rouge, ça dépend. Ce qui rythme le récit, c'est pas fluide. Ça le rend plus rude, plus contrasté. On y trouve des dessins qui rappellent l'art chrétien, les vitraux, ou des représentations de l'enfer comme le font les peintres flamands. Dante, bah oui, c'est tout à fait ça. On est vraiment dans Dante. Sans flamme ni fumée, mais on y voit la folie, le désespoir. On y trouve des grandes planches comme j'aime, comme dans Salambo de Druyer, ou alors des personnages comme les orques dans Le Seigneur des Anneaux. Des espèces de formes un peu bizarres. Voilà, le lettrage lui aussi prend un style particulier parce qu'il y a beaucoup d'extraits de la Bible, d'extraits de l'Apocalypse, de sermons, de prières. Voilà, et il a donc un style tout à fait particulier. On y touche le divin quand on voit ça. Et parce que Loveness, lui, il connaît bien la religion catholique, il a été élevé dans un milieu très catholique, très rigoureux, donc il connaît bien tout ça. Et donc, il s'en est emparé. D'autres traîtres dans la Bible sont évoqués en le rassignant, mais un autre rôle, que celui de traître, mais comme un support de projet divin, comme la femme de Lot, ou alors Pharaon, ou Lucifer. Ils ont tous un rôle quand on regarde ça différemment. C'est une BD qui est risquée, qui séduira forcément pas tout le monde, par le regard proposé sur le personnage. Ça n'est ni moqueur, ni blasphématoire. C'est une BD qui attire la main. Moi, j'aime bien caresser les pages, et là, je me suis vraiment fait plaisir. Qui raconte une autre histoire de Judas, une autre approche aussi de la vie du Christ dans ce qu'il a d'humain avant la trahison. Ça amène à réfléchir ou pas, on n'est pas obligé de réfléchir quand on lit une BD ou pas une BD. C'est émouvant que de suivre ce Judas dans ses souffrances, dans ses doutes, dans ses rencontres, dans ses discours avec Jésus. Il a ce rôle de traître, il est maudit, mais il rend bien vivant le principe que chaque histoire a besoin d'un vilain. Alors je reprends la phrase du début, hein. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme est trahi, mieux eût valu pour cet homme de ne point naître. C'est l'évangile selon Matthieu, hein, voilà. Mais sans cette trahison, que serait devenu Jésus?
Eh oui.
Ah bah ça, écoute, c'est vraiment toute histoire. Vraiment c'est... Ah oui, mais elle est fascinante. De... Ouais. La bande dessinée, elle est magnifique.
Ouais, il y a vraiment des choses qui sont de l'ordre des dessins un peu à la Gustave Doré, presque.
Ah,
on a
oui,
des choses.
Oui.
En plus, les roses là, qui rappellent un peu l'épine, la couronne d'épines. Enfin, il y a vraiment toute une thématique par la couleur.
Oui,
par
lire, il faut y être attentif dans les détails.
L'ouvrage est très chouette. Ouais.
Ah oui, c'est vrai. Voilà.
Très, très beau.
Ah, c'était bien. Moi, j'aime bien cette BD. Je la relirai d'ailleurs. Voilà. Mais sinon, on ne pouvait pas finir cet aréopage de traite sans parler du roi des traîtres. Celui qui est traître pour être traître, l'infâme par excellence, et là c'est Charles qui va nous en parler. Vas-y Charles.
Eh ben oui, je veux être calife à la place du calife. Alors, tout le monde connaît l'expression, et quand je dis ça, ben, vous pensez évidemment à l'ignoble, à l'infâme, au tortueux Is No Good. Is No Good, une série de bandes dessinées franco-belges créée par René Goscinny pour le scénario et Jean Tabary pour le dessin. Publiée la première fois en 1962 dans le magazine Record. Sous le titre Les Aventures, au début, c'est Haroun El Poussa. Ah ouais. C'est lui qui arrive quand même. Hein. Et la série met en scène les aventures du terrible vizir Is No Good à la cour du calife de Bagdad, cherchant à chaque épisode d'évincer le calife pour accéder au pouvoir suprême. Le nom Is No Good est la francisation d'expression anglophone Is No Good. Alors littéralement, on traduit ça par Il n'est pas bon, mais ça signifie exactement Il ne vaut rien.
Voilà.
Ah oui,
c'est vraiment
bon.
Nul.
Nul. Bon. Alors, c'est pour ce personnage que René Goscinny invente la formule entrée dans le langage courant « Je veux être calife à la place du calife ». Is No Good est le premier et principal personnage d'une BD à avoir un rôle de méchant. Après la disparition du magazine Record, les aventures de l'ignoble sont publiées dans Pilote. Alors, je ressors à chaque fois quand même. Ouais. C'était bon, les pilotes des années 60. Et puis dans Pif Gadget, donc Pif Gadget est quand même tiré à 800 000 exemplaires chaque semaine, quand même, c'était vraiment
j'adorais les gadgets,
cartons. Hein. Et bon, les 12 premiers albums ont été publiés chez Dargaud, et après c'est Jean Tabary qui a fait sa maison d'édition, ça rapporte plus de pognon quand même. Bon voilà, alors... L'histoire. Donc, au temps des mille et une nuits, Haroun El Poussa est le calife bien-aimé de Bagdad et Is No Good, son fort peu dévoué vizir, est assisté par Dilat la Ratte, un homme à tout faire, qui n'a qu'une idée fixe, devenir calife à la place du calife. Si le calife est débonnaire, Is No Good est un concentré de cruauté et d'égoïsme. Chacune de ses tentatives pour destituer le calife se solde irrémédiablement par une catastrophe, l'expédiant dans une situation inextricable, ce qui n'empêche pas de le retrouver dans ses fonctions comme si rien n'était à l'épisode suivant. La BD fonctionne un peu comme le carton Ville-Colotte Coyote, le célèbre dessin bip bip de Chuck Jones. Hein, comme le pauvre Coyote, le malheureux Is No Good tombe toujours dans les pièges qu'il a lui-même créés pour éliminer le prince en place et devenir calife à la place du calife. Is No Good possède presque tous les défauts existants, cruel, avare, égoïste, colérique, hargneux, obsédé par l'idée, toujours calife à la place du calife. Il tente d'y parvenir par tous les moyens, mais sans jamais réussir. Il n'hésite pas à brandir la menace du pal envers ceux qui pensent lui désobéir ou qui échouent. Homme de petite taille, au long nez crochu à barbiche noire, il est la terreur de presque tout Bagdad qui le déteste. Haroun El Poussa, lui, c'est le héros à l'origine, c'est un gros homme au visage poupin, oisif, tranquille, débonnaire, et il est présenté dans la série et comme apprécié par son peuple. Alors que tout Bagdad connaît les viles ambitions d'Is No Good, le naïf calife est le seul à croire à la fidélité de son grand vizir qu'il appelle « mon bon Is No Good ». Et en qui il met toute sa confiance. Dans chaque épisode, c'est grâce à la stupidité et à la malchance d'Is No Good qu'il échappe aux attentats ourdis par le grand vizir et qu'il conserve son trône sans même se rendre compte du danger auquel il a échappé. Le contraste entre les deux personnages ainsi que la malchance du vizir dans l'exécution de ses complots est le retort, sont les principaux ressorts comiques de la série. En outre, on retrouve dans Is No Good la patte de Goscinny, mélange de références culturelles, historiques, de calembours, de jeux de mots, etc. Alors, donc les auteurs, j'ai pas parlé de Goscinny parce que super archi connu, d'accord. Le dessinateur Jean Tabary, qui est un peu moins connu, mais un grand auteur du journal Pilote. Il était né, c'est un Français, mais qui était né à Stockholm en 1930, mort en 2011. Alors, il est connu pour avoir signé Is No Good, mais il a fait beaucoup de séries. Celle-là, c'était Valentin le Vagabond dans les journaux Pilote des années 60. Alors, c'est une famille de dessinateurs. Hein. Ses frères sont dessinateurs de BD et les fils ont repris la BD Is No Good avec un angle un peu plus politique. Bon, je vais en parler, je vais en toucher deux mots. Alors, comme bon nombre de séries animées, Is No Good a été adapté dans d'autres formats. Alors, notamment, il y a eu une série de films pour Canal dans les années 90, des dessins animés de 52 minutes qui ont été repris aussi par Antenne 2 un peu plus tard. Mais c'est bon. À mon avis, ça ne vaut pas le Ville Coyote quand même. Hein, bon. Et il y a eu un film qui a été fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est le film, c'est un bon acteur qui joue, c'est Jacques Villeray qui fait Haroun Nelpoussa. Mais le film est classé dans les 10 meilleurs films, 10 plus mauvais films du cinéma français. Et il a même reçu le Gérard d'Or, qui est le pendant du César pour le plus mauvais film. Bon, alors les films on peut les voir sur YouTube, hein, les séries animées et le film. Je trouve que ils sont un peu cruels quand même, parce que
c'est à une époque, on va dire.
Oui, voilà.
Il faut respecter le principe.
Alors, la phrase « Je veux être calife » à la place du calife est devenue aujourd'hui une expression du langage courant. Une expression si courante qu'elle a même joué un rôle dans la politique française. Alors, au début des années 2000, quand Sarkozy manœuvrait pour évincer Jacques Chirac, bon nombre de caricaturistes s'en sont donnés à cœur joie pour affubler Sarkozy de tous les attributs d'Is No Good, en manière de se moquer de celui qui voulait devenir président à la place du président.
Voilà. Oui, pas mal, effectivement.
C'est tout pour aujourd'hui.
Il y a d'une telle bêtise en plus. Voilà.
Excellent.
On va enchaîner rapidement sur la rubrique de Francine qui va nous parler des Utopiales.
Eh oui.
Vers l'infini et au-delà.
Enfin, n'exagérons pas, hein. D'accord, je suis complètement à l'ouest, mais pas à ce point-là. Si je ne suis pas en studio aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je suis à Nantes. Quand je vous disais que j'étais à l'ouest. Pourquoi Nantes? Eh bien parce qu'en ce moment même, à la Cité des Congrès, et ce jusqu'à dimanche, a lieu la 25e édition des Utopiales, festival international de science-fiction qui fait dialoguer littérature, recherche scientifique, cinéma, bande dessinée, arts visuels, jeux de rôle, jeux de vidéo et manga, amenant ainsi des réflexions sur des questions sociétales de notre passé, notre présent et notre futur. Le thème de cette année? L'harmonie. Les Utopiales, c'est 291 intervenants scientifiques, autrices, scénaristes, dessinatrices, artistes, réalisatrices, gameuses et le somologue masculin, bien entendu. C'est aussi 13 expositions, 137 conférences et tables rondes, 86 séances de cinéma, 10 ateliers du futur pour réfléchir, créer et participer ensemble à une démarche artistique ou ludique. Un espace jeu proposant des centaines de jeux de rôle, de plateau, jeux vidéo, cartes, figurines, jeux grandeur nature, à découvrir et à tester. Un espace jeunesse et son programme. Et puis, 4 soirées festives, une soirée cosplay, les Chevaliers de l'Imaginaire, un blind test harmonie de multivers, une soirée jeu et une soirée cinéma métal hurlant. Métal hurlant qui sera également mis à l'honneur à travers une expo et des tables rondes. Alors, il est grand temps de parler BD. Je suis à Nantes aujourd'hui, c'est parce que moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Vous l'aurez deviné, une des grandes pointures du festival n'est autre qu'Émile Ferris, dont la version française du tome 2 de son sensationnel « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres » paraît ici en avant-première. C'est elle aussi qui signe l'affiche et on lui a consacré une exposition réunissant une cinquantaine de dessins originaux, des reproductions grand format, des objets personnels, dans un décor intime pour mieux pénétrer dans son univers. On la retrouvera également en rencontre et autour de tables rondes. Petit rappel, moi ce que j'aime c'est les monstres, c'est 800 pages d'une folle ingéniosité graphique réalisé au stylo bille qui nous plonge dans le Chicago de la fin des années 60 à travers le journal de Karen, une gamine de 10 ans qui adore les fantômes, les vampires et autres morts vivants. Elle s'imagine même être un loup-garou. Alors quand sa voisine meurt d'une balle en plein cœur, Karen enfile imperméable et chapeau pour mener l'enquête. Sorti en France en 2018 chez Monsieur Toussaint Louverture, le premier tome a été vendu à 100 000 exemplaires et a été couronné du Fauve d'Or 2019, entre autres. Autre grand nom de la BD qu'on retrouvera également lors des tables rondes, Marion Montaigne, avec qui on mourra moins bête, et celle qui a reçu le prix du public d'Angoulême en 2018 pour son album Dans la combi de Thomas Pesquet, publié chez Dargo. Côté comics, plusieurs tables rondes sont prévues avec Ram V, dont le dernier opus, Le Dernier Festin de Rubine, sur un scénario de Philippe Andrade, vient de paraître chez Urban. Mais David vous en parlera bien mieux que moi. Et puis il y a Jess pour Fanny la Renoueuse, le quatrième opus des Contes de la Pieuvre, et Philippe Valette pour L'Héritage Fossile. Ces deux albums que je vous recommande fortement, et dont je vous reparlerai sûrement, viennent de paraître aux éditions Delcourt. Alors pour terminer, six albums sont en lice pour le prix Utopial BD 2024. L'Archipel de Sacha Gorge aux éditions Gallimard, Le Fils de Pan de Fabrizio Dori chez Sarbacane, Le Visage de Pavel de Jérémy Porodo aux éditions 2024, Le Dieu Fauve de Fabien Vellman et Roger chez Dargo, La Cuisine des Ogres, Trois fois mort de Fabien Vellman et Jean-Baptiste Andréae aux éditions Rue de Fèvre, et enfin Le Chant des Possibles de Véro Cazeux et Anaïs Bernabé chez Dupuis. Alors, que le meilleur gagne. Au revoir et à bientôt.
Ben merci à tout le monde pour cette émission sur les traîtres. Merci Francine. Merci. Et puis, n'oublions pas que tout ça, c'est de la science-fiction. On a bien vu que tous nos traîtres évoqués viennent du passé, de la mythologie et de la croyance. N'y aurait-il plus de traîtres en ce bas monde ? Je vous laisse choisir. À bientôt. Merci.
Merci Yervin. Merci à vous. Merci à vous. Grosse bise à tous. Mais bon, c'est pas dans ce miroir. Est-ce toi?